messieurs les modérateurs, mesdames et messieurs. Je m'appelle Thomas Lescaut, je suis anesthésiste réanimateur, je travaille à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Je suis vraiment ravi de participer à ce congrès que je découvre et parfaitement d'accord avec ce qu'avait dit l'un des orateurs urgentistes ce matin, à savoir que probablement qu'un plus grand nombre de praticiens devraient venir, tant les sujets, je pense, sont intéressants pour nous. C'est une présentation, vous allez voir, à deux voix, avec Michel Vaubourdol, qui illustre à travers cette double voix la collaboration qui a été celle développée au cours de cette histoire qu'on va vous raconter, qui s'intéresse à la mesure du calcium ionisé dans les liquides de dialyse, essentiellement au citrate post-filtre. Alors, je vais commencer pour la partie clinique, et puis vous verrez, il y aura un petit jeu de va-et-vient entre nos présentations. Vert, ça doit être pour go, ça marche. On va parler d'épuration extra-rénale et de mesures de calcium ionisé au sein du circuit d'épuration extra-rénale. L'épuration extra-rénale, c'est une technique de réanimation dont vous avez certainement entendu parler, qu'on utilise lorsque, par exemple, on veut restaurer l'homéostasie du milieu intérieur en conséquence de troubles du sodium, potassium, d'acide base. Également, dans certaines situations, on doit contrôler la volémie du patient, œdème aigu pulmonaire, inflation hydrosodée. Lorsque, par exemple, on doit épurer des substances endogènes toxiques, traiter un sepsis, bien que plus controversé, ou encore épurer des substances exogènes toxiques. Ce sont les principales grandes indications du recours à l'épuration extra-rénale en réanimation. De manière schématiquement et simple, il faut trois choses. Il faut d'abord un patient, ensuite il faut un cathéter, et puis un appareil d'épuration extra-rénale. Le principe est relativement simple. À partir du cathéter, on va tirer le sang sur une ligne dite artérielle, bien que le cathéter soit veineux. Ce circuit extracorporel donc, est entraîné par une pompe qui va aller jusqu'à une membrane de dialyse. Donc, vous savez, il y a deux possibilités, soit un effet de dialyse ou un effet convectif. On s'intéresse uniquement à la dialyse pour simplifier. Et puis, une fois que le sang aura traversé cette membrane, il va retourner au patient. Et parallèlement à la circulation du sang, on va faire circuler de manière inverse un dialysa, de sorte que les concentrations des différents ions qu'on veut équilibrer s'équilibrent à travers la membrane et puis on récupère un effluent. C'est une circulation extracorporelle, donc ce qu'on veut, c'est que surtout ça ne thrombose pas, et donc pour ça, on met de l'héparine, qu'elle soit non fractionnée ou de bas poids moléculaire. Malheureusement, malgré l'héparine, parfois tout ça thrombose, et pour nous, c'est très embêtant, puisque ça altère l'efficacité de la dialyse, il faut enlever tout le kit thrombosé. Ça augmente les pertes sanguines, donc à chaque fois le patient va perdre un point d'hémoglobine, donc c'est plus de temps pour l'infirmière également, du découragement, de transfusion, des coûts, etc., etc. Et dans cette horde d'idées, pour essayer de trouver une alternative à l'anticoagulation qui n'est pas parfaite, même en augmentant les doses d'héparine, au cours de l'histoire de la dialyse, vous voyez, qui date depuis maintenant plus de 40 ans, depuis à peu près 2010, s'est développée la dialyse dite au citrate. C'est une anticoagulation régionale, puisqu'auparavant, l'héparine qu'on injectait dans le circuit extracorporel allait aussi dans le patient. Et là, l'idée, c'est de décoaguler complètement le sang uniquement dans sa portion de circulation extracorporelle. Et tout ça repose sur le fait que, comme vous le savez bien mieux que moi, la cascade de la coagulation nécessite du calcium, et que si on enlève artificiellement ou dans l'idée ce calcium, le sang devient décoagulable. Et l'idée, c'est de chélater ce calcium avec du citrate pour former des complexes de calcium-citrate. Les bénéfices attendus, c'est un traitement continu ininterrompu. L'idée, c'est que le sang ne soit plus coagulable et donc on puisse utiliser le filtre jusqu'à la durée maximale prévue, c'est-à-dire 72 heures. Ça augmente la dose de dialyse puisqu'on n'est pas interrompu. Ça diminue le risque de saignement parce qu'auparavant, on mettait de l'héparine, là, on n'en met plus. Moins de transfusion sanguine, optimisation du temps infirmier, durée de vie des circuits augmentée. Ça réduit l'ensemble des coûts. Tout le monde est content. Les indications actuellement préférentielles, c'est le saignement actif. Un patient qui saigne et chez qui on n'a pas envie de mettre d'héparine pour anticoaguler le circuit, on va être plus enclin à développer une anticoagulation citrate. Le risque hémorragique et les réactions allergiques à l'héparine, mais dorénavant, les indications ont été élargies. Les dernières recommandations internationales disent qu'en première intention, il faut probablement, même si c'est un grade 2B, probablement penser à dialyser les patients au citrate. D'un point de vue pratique pour nous en réanimation, c'est extrêmement simple. Une fois que le sang est sorti du cathéter et qu'il se dirige vers la machine, au début de la circulation extracorporelle, on va perfuser du citrate de manière asservie à la pompe. Et puis de l'autre côté, bien évidemment, comme la calcémie à l'intérieur, la calcémie ionisée du patient à l'intérieur du circuit est effondrée, il faut restaurer un stock de calcium au patient. Et juste avant que le sang ne retourne au patient, on va perfuser du calcium. Tout ça est calculé et asservi par l'appareil de dialyse. Pour ça, on va effectuer un certain nombre de mesures régulières pour régler cet asservissement. Le but, c'est d'avoir en post-filtre, donc ici, une concentration de calcium ionisé comprise entre 0,25 et 0,34. Ça peut varier selon les appareils. Et vous voyez qu'au niveau de l'écran de l'appareil, on va pouvoir moduler la dose de citrate en fonction de la calcémie ionisée qui a été dosée. Hein, et vous imaginez bien que les dosages sont régulés dans cette idée. La biologie délocalisée, in situ en réanimation, nous aide énormément. Ensuite, on a des ABAC. Et on va, en fait, ce sont les infirmières qui, toutes les 6 heures, par exemple, dans notre réanimation, prélèvent le sang dans la circulation extracorporelle en post-filtre, vont aller récupérer le résultat de calcium ionisé et ensuite vont pouvoir décider, mille excuses, vont pouvoir décider de l'éventuelle modification de la dose de citrate selon la concentration de post-filtre et elles peuvent le régler directement sur la machine. Pour la calcémie, c'est exactement la même chose. On va doser la calcémie patient et puis on va pouvoir adapter la dose de calcium qui est réinjectée dans le patient avant que l'ensemble du sang complètement décoagulé ne soit réinjecté. Donc d'un point de vue pratique pour nous, monitorage biologique par 6 heures, calcium ionisé post-filtre qui va nous permettre d'adapter la dose de citrate selon les ABAC, ionogramme sanguin par 12 heures, calcémie totale et ionisée par 24 heures. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on est si scrupuleux toutes les 6 heures dans le monitorage du citrate et du calcium, de la calcémie ionisée pour adapter le citrate et de la calcémie plasmatique pour adapter la dose de calcium? Parce qu'il y a un certain nombre de complications en lien avec cette technique d'épuration, des complications métaboliques telles que l'hypocalcémie, essentiellement lorsque les doses de citrate sont trop élevées ou que les doses de calcium sont trop faibles, dues à une fracture de protocole ou un défaut de surveillance. D'autres complications, c'est l'alcalose métabolique, essentiellement en fin de vie de filtre aux alentours de deuxième, troisième jour, des microthrombies se forment quand même au niveau des fibres et les complexes de calcium citrate, normalement en partie épurés, ne le sont plus. Il y a une accumulation de citrate qui ensuite, dans le cadre de son métabolisme, va donner plus de bicarbonate. Ici, typiquement, l'évolution en bleu des bicarbonates, en rouge du pH chez un patient au cours du temps en heures. Et vous voyez, il part ici en acidose métabolique, probablement sur l'hyperlactatémie, une insuffisance rénale aiguë en réanimation, dialysé au citrate avec très rapidement, en 24-48 heures, le développement d'une alcalose métabolique. Raison pour laquelle, alors ça, évidemment, ça a été mal fait, c'est pour ça que je cite, mais normalement, le monitorage doit nous conduire à un certain nombre de dispositions correctrices. D'autres complications, c'est l'hypernatrémie qui va pouvoir ensuite générer de l'acidose directement issue du métabolisme du citrate. Et enfin, en cas de dysfonction hépatique, hein, une grande partie du métabolisme du citrate se fait au niveau hépatique. En cas de dysfonction hépatique, accumulation d'acide citrique, acidose métabolique, donc qu'il convient de monitorer de manière plus rapprochée. Donc, néanmoins, jusqu'ici pour nous, en réanimation, tout allait bien, on était très contents. Grâce à la collaboration avec l'équipe de biologie, on avait un appareil délocalisé, des ABAC, des infirmières, des patients, et somme toute, ça allait pas trop mal, jusqu'au jour où les biologistes sont venus nous voir en disant il y a quand même peut-être un petit problème d'interprétation, puisqu'on s'est rendu compte, il y a un certain nombre de publications qui rendent compte d'une différence de résultats du calcium ionisé pour des valeurs basses en fonction du type d'appareil qui est utilisé. Alors que les ABAC ont été faits avec un type d'appareil et que nous, on utilise l'autre appareil. Et donc ça nous a un tout petit peu perturbés. On n'est pas les seuls, parce que j'ai vu deux abstracts de ce congrès qui reprennent exactement la même problématique. Et dès lors, est survenue la question de savoir comment est-ce qu'on devait interpréter ces valeurs de calcémie ionisée post-filtre. Et donc l'histoire analytique et les résultats analytiques vont vous être présentés par Michel Vaubourde.
Alors, l'objectif, ça a été d'évaluer l'importance des différences qu'il pouvait y avoir sur la mesure du calcium ionisé dans le service de réanimation médicale et de mesurer les impacts cliniques. Donc, on est parti, en fait, d'une constatation analytique liée au fait qu'il existait déjà un appareil délocalisé qui était installé dans le service de réanimation digestive, d'ailleurs sous accréditation 22870 depuis un certain temps. Et puis, on a été amené à le renouveler par un autre appareil et donc à faire ce qui nous est demandé par l'accréditation, c'est-à-dire des comparaisons avec l'ancien appareil et puis des comparaisons avec l'appareil de référence du laboratoire. On peut penser que c'est pour le COFRAC, mais en fait, ça sert à quelque chose. Donc là, c'est les résultats de cette comparaison. Et comme vous pouvez voir, autant la comparaison entre le GEM 5000, qui était celui qui devait être installé en délocalisé, et la BL 835, qui était celui qui était au laboratoire d'urgence, on avait une très bonne comparaison des résultats, comparabilité des résultats entre les deux pour tout ce qui était valeurs, disons, physiologiques. Et puis, on avait un petit groupe de valeurs complètement, complètement discordantes. Et ces valeurs, ce sont uniquement des liquides post-filtre. Et évidemment, on se retrouve dans des valeurs qui ne sont pas du tout physiologistes, autour de 0,3 millimoles par litre. Et donc, on s'est dit, c'est quand même étonnant. Comment se fait-il que les deux appareils donnent des résultats très comparables depuis toujours? Et puis, dans ce cas-là, on a une différence. Alors, on a essayé d'aller un petit peu plus loin en se disant, mais il y a une différence, mais on ne sait pas quel est le vrai résultat, entre guillemets. Il se trouve que dans le cas du calcium ionisé, c'est un des rares cas en biologie où on peut faire des étalons primaires assez facilement en solution aqueuse. Et donc, c'est ce qu'on a fait en utilisant les recommandations de préparation des étalons primaires. C'est important d'avoir un milieu tamponné, parce que vous savez que le calcium ionisé dépend du pH. Et donc, on a préparé ces étalons en essayant de chercher l'explication de cette différence. Donc, vous avez sur un certain nombre d'échantillons les résultats. Vous voyez en bleu et en rouge les résultats pour les GM et en vert les résultats pour l'ABL. Et on retrouve cette différence de 0,1 millimole par litre systématiquement sur l'ABL. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un milieu qui contient plus de sodium, on retrouve une différence encore plus marquée entre les deux, avec le trait pointillé qui est la valeur entre guillemets exacte. Donc ça nous a permis de montrer qu'il y avait probablement une surestimation des valeurs par l'ABL 835. Lié à sans doute une interférence du sodium, puisque c'est confirmé en mesurant les biais, on retrouve cet élément, puisque pour des valeurs élevées en sodium, on retrouve bien ce biais systématique de l'ordre de 35%, c'est-à-dire de 0,1 millimole par litre, qui pouvait peut-être potentiellement avoir une influence ou pas. Sur l'ajustement de la dose de citrate post-filtre. Voilà, donc, oui, parce que, en réalité, l'adaptation, comme l'a dit le professeur Lescaut, l'adaptation de la dose de citrate injectée est faite en fonction de NABAC, qui est fondée sur la valeur de calcium ionisé post-filtre. Donc, on voit bien que 0,1 millimol, ça peut faire changer de classe le comportement, l'interprétation des résultats en termes d'ajustement de la dose de citrate. Or, il se trouve que cette ABAC a été proposée par le fabricant Fresenius, le fabricant de l'appareil de dialyse, et qui a utilisé pour déterminer ces seuils un ABL. Donc, la question qui se pose, et c'est souvent le cas en biologie, peut-on rendre des résultats par rapport à un seuil qui a été déterminé avec une méthode qui ne donne pas les mêmes résultats. Donc la première question, c'est est-ce qu'il y a un impact clinique? C'est ce qu'on s'est posé comme question avant d'aller plus loin. Alors voilà, donc pour résumer, pour la partie analytique, donc il existe sur les appareils GEM une différence systématique de moins 0,1 millimole par litre pour les valeurs de calcium proche de la zone seuil d'adaptation de la dose de citrate dans le circuit de dialyse qui est de 0,3 millimole par litre. L'utilisation d'étalons primaires a permis de préciser qu'il s'agit d'une surestimation des valeurs sur l'ABL. Ça avait déjà été montré par une publication précédente sur le GEM 4000. Celle-ci est probablement liée à une interférence des ions sodium, car c'est vrai que ces zones de concentration ne sont pas physiologiques. Dans ce cas, comme il y a moins de calcium et autant de sodium, le rapport calcium-sodium s'élève de façon importante. Et si la sélectivité de l'électrode n'a pas été préparé pour ces conditions-là, forcément, il peut y avoir une interférence qui n'apparaît pas dans les conditions habituelles. Voilà. Donc, je repasse la parole à Thomas Lescaut pour voir l'impact clinique.
Donc, nous, on était quand même un tout petit peu embêtés parce que nous, cliniciens, notamment en réanimation, on reçoit des tonnes d'informations cliniques, radiologiques et biologiques. Et s'il y a bien un système qu'on considère intuitivement parfaitement sûr, c'est la biologie. Si vous parlez avec des cliniciens, on ne remet intellectuellement, c'est une construction de l'esprit, on ne remet jamais en cause un résultat biologique. Peut-être que de temps en temps, on devrait, mais c'est vrai qu'en général, on se demande est-ce que le patient a pris son traitement, est-ce que ça a été bien prélevé. Mais si vous voulez, pour nous, le système biologique, c'est un système à la base ultra sûr. Donc là, on était quand même un peu confusionnés, comme on dit. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, on s'est dit, on va reprendre un certain nombre, grâce à l'aide du laboratoire, un certain nombre de prélèvements, et on va voir ce que ça aurait donné si on avait appliqué la BAC selon les résultats de l'ABL, alors qu'on a utilisé les résultats du GEM. Ou en gros, qu'est-ce qu'on a fait avec le GEM qu'on n'aurait pas dû faire avec l'ABL. Chez nous, donc, les patients, toutes les 6 heures, il y a des prélèvements de calcium ionisé post-filtre qui sont techniqués sur le GEM. Et l'idée, et on applique, on applique un ABAC, comme on vous l'a dit, mais qui est développé à partir de l'ABL. En d'autres termes, lorsque on suit notre prélèvement, c'est-à-dire qu'on récupère un prélèvement, je dis par exemple un prélèvement, imaginons 0,20, je prélève en réanimation un calcium ionisé post-filtre, je le technique sur le GEM et il rend 0,20. En fait, si j'avais envoyé ce même prélèvement au labo central sur l'ABL, d'accord, ça n'aurait pas été 0,20, mais 0,30. Donc, dans le cas de ma réanimation, j'ai diminué la dose de citrate de 1 millimole par litre, alors que si j'avais envoyé ce même prélèvement au laboratoire central qui utilise l'ABL, je n'aurais pas changé la dose de citrate. L'idée, c'est que dans ces gammes de variations, on est amené à diminuer la dose de citrate en suivant un ABAC, parce que l'appareil ne correspond pas forcément et qu'il y a cet écart de 0,1. Par rapport à l'ABL. Donc on a repris l'ensemble des valeurs avec Bénédicte Burnat et Michel Bourdol, et puis on s'est aperçu que, ben, grosso modo, ça considérait, ou ça, il y avait un certain nombre de valeurs parmi celles qu'on avait étudiées qui étaient considérées ou qu'on devait considérer comme potentiellement à risque d'avoir généré un changement qui n'aurait pas dû avoir lieu. C'est toutes celles qui sont en jaune. Si on regarde de manière un peu plus précise, voilà ce que ça aurait donné si on avait suivi la BAC selon un prélèvement ABL par rapport à ce qu'on a fait au GEM. C'est-à-dire que ici, ce qu'on a fait par rapport à l'ABL, c'est qu'on a diminué de 0,1 millimole par litre la dose de citrate dans à peu près 66% des cas, dans 33% des cas de 0,2, c'est-à-dire que dans environ 95-96% des cas, on a diminué la dose de citrate par rapport à ce qu'on aurait fait si on avait envoyé le même prélèvement sur l'ABL. Je ne sais pas s'il y en a un qui a raison ou qui en a tort, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'utilise pas le bon appareil avec le bon APAC. Et donc, on pourra en discuter ultérieurement. Donc, en gros, cette diminution de 0,1 au global a engendré une diminution de la dose de citrate de 0,1 millimole par litre pour 2/3 des échantillons, de 0,2 pour 1/3. On n'a pas encore déterminé l'impact potentiel clinique, mais on pourrait s'attendre à ce qu'on ait diminué artificiellement ou pas de façon adaptée la dose de citrate, de sorte que ça puisse engendrer un risque accru de coagulation dans le filtre. Donc là, on est en train d'essayer de reprendre toutes les séances de dialyse de ces patients pour essayer de voir si la durée moyenne des filtres est inférieure à ce qu'on aurait pu attendre. Cliniquement, comme ça, on n'a pas trop l'impression, mais encore faut-il le quantifier. Donc, en conclusion, ces résultats démontrent, je crois, avant tout, la collaboration nécessaire entre les biologistes et les cliniciens. C'est vraiment, tout ce que je vous raconte là, c'est une histoire qui est en train de se poursuivre, mais débute par une collaboration et une discussion, démontre l'importance de l'ajustement des seuils de décision et surtout de ces interprétations en fonction des ABAC. Là, ce n'est pas tant un problème de il y a un appareil qui a raison ou l'autre qui a tort, c'est quel ABAC on utilise avec quel appareil. Ça nécessite de poursuivre cette étude pour essayer de voir quelle est l'importance clinique. Et je pense qu'il y a une seule chose à retenir, en tout cas maintenant, c'est le 0,1. Et puis 0,1, on peut aussi l'entendre de manière différente. Ça peut aussi être un pronostic pour tout à l'heure. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et on est dans les temps.
Merci pour votre présentation si informative. Et on voit que même au niveau de l'appareillage, des mesures dans le labo ou près du patient, il y a des différences que normalement on ne devait pas s'attendre. Alors, il y a des questions de l'auditorium?
Merci beaucoup de cet exposé très instructif. Quel est le niveau d'incertitude pour une concentration de 0,3 millimole de calcium ionisé?
Je ne l'ai pas en tête, Anne, mais je te la donnerai après. Mais dans le cas précis, pas en mesure de modifier ce qu'on vient de dire, puisqu'il est très faible. C'est des appareils qui sont très précis. Et que le principal facteur de variation, comme tu sais parfaitement, c'est la fidélité intermédiaire au long terme. Et là, elle est très faible, de l'ordre de 1%.
Juste une question pour l'explication de l'interférence par le sodium. En fait, nous, on avait vérifié les compositions ioniques des liquides de dialyse suite à une communication que Michel avait faite l'année dernière. Et en fait, les concentrations de sodium, c'est aux alentours de 140. Donc, les exemples que tu montres avec les 180 millimoles, comment tu expliques que ça fasse un biais autant important et qu'il n'y a pas une autre explication possible sur ce biais?
Non, à 140, il y a 0,1 millimole de biais. À 180, on a plus, 0,15 ou 0,2. Donc, c'était juste pour montrer qu'en diminuant la valeur du sodium, on diminue le biais, et en augmentant la valeur du sodium, on augmente le biais, ce qui nous laisse penser que c'est probablement cette hypothèse d'interférence de sélectivité des électrodes qui permet d'expliquer les différences.
Je suis désolé. Et l'autre question, c'était en fait la composition protéique, tu ne la fais pas du tout jouer en fait. C'est-à-dire qu'en fait, dans le liquide de dialyse, il y a 50 grammes de protides et on n'a pas réussi à retrouver vraiment avec des milieux artificiels supplémentés en protides ce genre de biais.
Non, parce que pour faire un étalon primaire de calcium ionisé, il ne faut pas être en milieu protéique. Donc on a respecté les recommandations. C'était en milieu aqueux qu'on a fait. Enfin, tout l'ensemble des résultats ont été faits en milieu aqueux pour avoir une valeur de référence. Parce que dès que tu mets des protéines. C'est vraiment très difficile d'évaluer l'équilibre qui se met en place entre les deux.
Alors, une question de moi. Qu'est-ce que vous pensez de faire maintenant? Vous pensez d'adapter le résultat, de changer la BAC, de changer l'instrument?
C'est la très bonne question. Ce qu'on est en train de faire là actuellement, c'est d'essayer de voir quel est l'impact clinique, en gros, quelle est la tolérance du système. Est-ce que finalement, il y a des abacs très stricts, mais est-ce que finalement le système, il n'est pas suffisamment tolérant pour supporter 0,1 d'écart? Nous, on n'a pas l'impression, mais comme ça, de manière très macro, de faire de catastrophes cliniques. On n'a pas l'impression que la technique de citrate échoue. En tout cas, elle marche pour le plus grand nombre des patients. Néanmoins, il faut aller voir un peu plus en micro pour voir si effectivement on ne peut pas l'améliorer et l'optimiser. Intellectuellement, ce qu'il conviendrait de faire, ça serait de changer d'abac et d'avoir un deuxième abac qui serait 0,1 en dessous de celui de la BL, dédié aux gemmes qu'on a, nous, en réanimation, en biologie délocalisée. Logiquement, c'est ce qu'il conviendrait de faire. Si on suit la logique à la fois des résultats analytiques et des résultats cliniques qu'on a montrés, il faudrait qu'on décale de 0,1 l'ensemble de la BAC ABL pour l'adapter au GEM. Enfin, je pense.
Oui, et je pense que les fabricants de machines de dialyse devraient peut-être mettre en évidence le fait que, comme c'est le cas dans beaucoup de choses en biologie, qu'il faut que le laboratoire s'assure que les seuils qui ont été définis avec une machine peuvent s'adapter à celle qui est utilisée au laboratoire. C'est un petit peu comme n'importe quelle valeur de référence. Ça apparaît pas comme ça dans les documentations. On a l'impression que la BAC peut s'appliquer à n'importe quelle situation, alors que dans la littérature, il y a quand même maintenant pas mal de publications qui montrent qu'il y a des différences de cet ordre-là entre les différents fabricants d'appareils de gaz du sang électrolyte. On est tombé sur ces deux-là parce que c'est ce qu'on utilise, mais il y a aussi des papiers sur les autres appareils, et donc je crois qu'il faut que les biologistes soient un petit peu vigilants sur le fait de l'utilisation de ces références.
Oui, ou que le fabricant produit tant des abacs que des instruments que quelqu'un pourrait utiliser pour mesurer le calcium. Alors, on vous remercie beaucoup. Ah, il y a encore une question?
C'est possible? Oui, justement, au niveau de la norme qui s'applique aux biologistes pour la biologie délocalisée, est-ce qu'il est prévu dans le cadre des essais de qualification ce type de problématique où on se retrouve avec un milieu qui n'est pas le milieu sanguin standard? Est-ce qu'il est demandé aux biologistes de faire leur qualification justement en tenant compte du milieu? Puis d'autre part, est-ce que la norme qui s'applique aux fournisseurs, aux fabricants de ces machines, leur conseille non seulement de demander aux biologistes d'y penser, mais de se standardiser entre eux pour éviter ce genre de problématique qu'a priori, d'après ce que j'ai compris, vous avez découvert a posteriori.
Si la question, c'est vraiment une question sur la vérification de méthode, et dans le cas d'un examen qui peut être fait sur plusieurs types de matrices. Hein. C'est-à-dire, on a qualifié déjà, on a fait la validation du calcium ionisé sur le sang total. Qu'est-ce qu'on doit faire pour une matrice qui est différente, par exemple, le liquide post-filtre? Donc ça, je crois qu'il y a un groupe de travail du COFRAC actuellement sur ce sujet. L'idée, c'est de ne pas en faire trop non plus et de valider, de faire un protocole réduit sur l'effet de matrice. Hein, c'est-à-dire, on ne va pas refaire l'ensemble des tests. Enfin, après, c'est à chaque laboratoire à définir ce qui est pertinent de vérifier. Ce qui peut être différent d'une matrice à l'autre, ce n'est pas l'ensemble. Là, on a vu que ce qui était intéressant, c'était la comparaison de méthodes. Par ailleurs, pour tous les autres critères, on n'avait pas de différence entre les deux appareils. Enfin, c'est juste pour la norme 22870, juste pour dire que c'est clairement précisé qu'il faut faire une comparaison entre l'appareil délocalisé et l'appareil au laboratoire, et aussi avec l'appareil ancien, et on voit que ça peut servir à quelque chose.
Une autre question, est-ce que la thromboélastographie ne pourrait pas être une solution, c'est-à-dire chez le patient avant la circulation, enfin avant l'épuration, et puis à la fin, avant la réinjection, voir s'il y a une différence pour être sûr que là, on reste dans l'optimum au niveau calcique?
Oui, en plus, ça fait le lien avec le topo de ce matin.
Oui.
Non, effectivement, ça pourrait être intéressant d'un point de vue. Ça serait en gros un surrogate marqueur, parce que ce qu'on veut in fine comme critère de jugement à la fin, c'est que la dialyse marche. Ça pourrait être intéressant, mais bon, alors nous on n'a pas le rotem en réanimation parce qu'on a peu de syndrome hémorragique cataclysmique. Hein. Mais ça rajouterait une étape de biologie supplémentaire, alors que là, ce qui nous importe de voir, c'est est-ce que cliniquement ça marche. Mais intellectuellement, ça serait intéressant, effectivement, de voir s'il y a une différence. Ouais. Je vais peut-être faire une demande de rotem à un service de biologie. Alors.
Alors, on vous remercie encore une fois. Je crois qu'on va passer à la présentation suivante.